nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Non, elle aurait aimé qu'il ait transformé. Au moins, on aurait vu que le temps se serait écoulé. Mais là, non, rien, rien. Je suis sûr que mes affaires sont dans l'armoire, telles quelles que je les ai laissées.
Elle va ouvrir l'armoire.
Elle retrouve le même parfum de lavande, ce parfum qu'elle a toujours détesté, car elle représente pour elle une vie bien rangée de petite fille. La bonne a dû changer le sachet de lavande toutes les années. Et le linge est là, à la même place, bien rangé, bien repassé. Elle soupire.
Ferme l'armoire. Pose sa valise à terre. Enlève sa robe. Va s'asseoir sur sa coiffeuse pour se reposer un peu.
On la frappa à la porte. Entrez. Bon. Bonjour, mademoiselle. C'est la bonne, la même. Bonjour, mademoiselle. Je suis très heureuse de vous revoir. Je ne savais pas que vous alliez revenir. Bonjour, Félicie. Madame m'a dit que vous étiez de retour et qu'il fallait que l'on s'occupe de vous. Apolline a envie de pleurer. Vous n'allez pas, mademoiselle? Je suis un peu lasse et surprise d'être ici. La bonne lui dit, Je sais, c'est l'émotion du retour, mais vous verrez, vous allez être heureuse ici. Vos parents reçoivent beaucoup. Il y a de nombreux jeunes gens. Vous verrez, on s'amuse beaucoup. Vous allez vous faire de nombreux amis. Merci, Félicie. Merci. Je vous aime bien, madame. Et ferai tout pour vous rendre service. Félicie s'approche de sa maîtresse pour la peigner. Une demi-heure plus tard, Apolline laisse Félicie ranger ses affaires. Juste au moment où elle sort de sa chambre, elle tombe sur Jules. Elle est surprise. Le trouve merveilleusement beau, d'une beauté angélique. Il a grandi et c'est un vrai jeune homme, porte un costume noir. Il lui dit, Apolline, oui, émus tous deux, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Il lui dit, que je suis heureux que tu sois revenu. Moi aussi, je suis heureuse de te revoir, que tu es devenu un beau jeune homme. Merci, mais toi aussi, tu es pas mal. Elle hausse les épaules. Elle lui dit, un peu vieillie et parlotte. Il lui demande, tu es revenu définitivement? Oui, malheureusement. Il lui dit, ça n'a pas l'air de te faire plaisir d'être de retour. Non, pas vraiment. C'est-à-dire que je m'attendais si peu à revenir ici. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé, que je suis parti pour rien. Je lui dis, si, il s'est passé des choses malgré tout. Mère a été très malade, père travaille beaucoup, mais il permet qu'on le reçoive. Et moi, je suis devenu un écrivain estimé. Apolline lui dit, j'en suis très heureux pour toi. Je lui dis, il reste un petit moment avant le déjeuner. L'on peut discuter dans ma chambre, tu viens? Oui.
Et Apolline suit son frère.
La chambre de son frère n'a pas changé. Il lui dit, « Eh bien oui, c'est toujours le même décor, mais cela n'empêche pas que l'on évolue. »
Il emmène s'asseoir sur le rebord du lit.
Alors raconte ce que vous avez fait. Elle lui dit, « Nous sommes allés vivre à Paris, où nous avons fait des tas de connaissances. » Et Charles-André a lui aussi édité quelques nouvelles qui ont eu un certain succès. Il lui demande, oh, « Pourquoi es-tu revenu ?»« Oh, ce sera un peu compliqué. Il nous est arrivé une aventure, disons, désagréable. »« Laquelle ? J'ai pas envie de t'en parler. » Elle le regarde bien. le trouve très beau, très très beau. Charles-André, à côté de lui, ce n'est rien, il fait fade. Elle se dit qu'elle aurait dû rester avec lui. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Elle lui répond, parce que tu es merveilleusement beau. Il lui dit, merci, mais cela ne t'a pas empêché de partir avec Charles-André. Elle l'embrasse sur la joue et lui dit, mais ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas à en être jaloux. Faudra que tu me fasses lire tes écrits. Il fait l'amour et lui dit, plus tard. Et toi, qu'as-tu fait? Pendant que mon frère écrivait, il lui dit, j'ai récité des vers et chanté. Oh là là, et qu'as-tu chanté? Elle sourit et lui dit, des chansons révolutionnaires, mon cher. Il sourit, ma sœur républicaine. Et elle lui dit, et camarade, quelle horreur! Et qu'as-tu fait d'autre? Elle lui sourit et lui dit, j'ai fumé de l'opium, comme les poètes. Tu as fumé de l'opium? Ce n'est pas dangereux? Non, pas du tout. Et ça fait voir la vie en rose. C'est très utile pour les artistes. Cela leur donne de l'inspiration. On a frappé à la porte. Je lui dis, oui. Le dîner est servi, monsieur, dit la bonne. Bien, je descends.
Ils se lèvent et sortent de la chambre. Là, dans le couloir, ils retrouvent Charles-André. Jules va l'embrasser.
Je suis heureux de te revoir, Charles-André lui dit, moi aussi. Mais il est attristé, car il a vu sa sœur sortir de la chambre de Jules. Il sait qu'Apolline n'a aucun scrupule et qu'elle peut aller d'un frère à l'autre. Il retrouve les parents à la salle à manger. La mère leur dit, mettez-vous à la place que vous aviez l'habitude de vous mettre. Apolline se dit, chacun retrouve sa place, comme si rien ne s'était passé. Tout retourne en ordre. Pendant le repas, le père leur dit, nous aurons une discussion pour parler de votre avenir. Après le repas, je vous recevrai l'un après l'autre dans mon bureau. Après le dîner, le père et Charles-André sont assis au bureau. Le père lui demande, « Que comptes-tu faire ?» Charles-André ne dit rien. Le père lui dit, « Si vous êtes venu dans l'idée de vivre avec nous sans rien faire, n'y comptez pas. »« Je veux écrire. » Le père ouvre les épaules. « Ça ne rapporte rien, ce n'est pas un travail. » Je le fais bien, lui. Jules n'est pas parti. Et puis, il poursuit ses études pour être professeur d'histoire. Et toi, tu es trop vieux pour poursuivre tes études. Donc, il faut que tu trouves un travail. Je n'y ai pas pensé. Et je ne sais pas quel travail je pourrais faire.
Eh bien, il faudra y penser. Pour que je... Autrement, je te mets à la porte. De toute façon, tu es déjà parti. Bon, je te donne une semaine pour résoudre ce problème. Maintenant, laisse-moi et dis à ta sœur de venir me voir. après. C'est Apolline. Viens t'asseoir.
Bon, je t'ai vu venir, c'est pour savoir ce que tu comptes faire.
Il n'y a rien prévu.
Tu comptais simplement vivre ici.
Vous, en quelque sorte.
J'aime pas ton côté dédaigneux. Si tu veux vivre avec nous, il faudra que tu te comportes autrement. Et si tu ne trouves pas une occupation digne d'une jeune fille, je t'enverrai chez Tante Amélie en Bourgogne. Allez, laisse-moi.
Et Apolline sort du bureau.
Charles-André décide de trouver du travail pour qu'on le laisse tranquille. En passant par hasard devant une librairie place Bellecour, il voit un écriteau où il est marqué qu'on cherche un jeune homme pour être vendeur. Il va rentrer dans la librairie qui semble être assez importante. Un homme à blouse grise, petit, à moustache brune, va vers lui.
Vous désirez, monsieur ?
Je viens pour la place de vendeur.
Bien, je vais voir si monsieur Décor peut vous recevoir.
Il s'éloigne. Et revient.
Veuillez me suivre.
Il suit le petit homme. Qui le mène au fond du magasin où se trouve le bureau.
Il frappe à une porte. Entrez. Il entre.
Le bureau n'est pas très grand, sombre. Une table de bureau, deux chaises et une bibliothèque. L'homme est assis, semble de taille moyenne, gros, cheveux grisonnants, habillé d'un costume bon marché gris.
Asseyez-vous, monsieur.
Vous postulez pour la place de vendeur.
Oui, monsieur.
Et qu'avez-vous fait jusqu'à présent ?
J'ai écrit quelques nouvelles et deux romans qui ont eu un certain succès d'estime chez les intellectuels parisiens.
Et pourquoi ne pas continuer ?
Parce qu'il faut bien vivre.
Je vois.
Mais vous savez, le métier de libraire, ce n'est pas un métier d'artiste. Il faut vendre, et n'importe quoi. Notre seul but ici, et de remplir le tiroir-caisse. Il ne faut pas confondre. Les artistes, ce sont ceux qui produisent nos livres et nous.
Avez-vous de l'expérience dans la vente, les affaires ?
Non, pas vraiment, monsieur.
Oui, vous êtes simplement artiste, et peut-être un peu rêveur. Bon. Vous allez me donner vos noms, prénom, adresse, et je vous écrirai.
Jean-André Beaumandin, rue.
Vous êtes de la famille Beaumandin ?
Oui, mon père est Constant Beaumandin.
Oh, et vous cherchez du travail ?
Oui, parce que mon père veut que je me fasse à la vie active.
Et vous avez choisi de venir chez nous ?
Jean-André ne dit rien.
L'homme continue. Je suis tout à fait flatté. J'ai eu l'honneur de rencontrer votre père une ou deux fois à la préfecture, à une de ses soirées. Et comment va-t-il ?
Très bien, je vous remercie.
Bien. Alors, vous voulez être vendeur chez nous et vous êtes écrivain en plus. Mais si vous avez quelque chose d'écrit et que vous cherchez un éditeur, mon beau-frère,
j'ai justement un roman que je viens de finir.
Bien,
Très bien, très bien. Je vais vous donner l'adresse de mon beau-frère. Vous irez le voir en mon nom, Monsieur Henri Décor. Pour ce qui est du travail, je suis prêt à vous embaucher. Au prix de... Et les heures sont de 9h à 12h, de 14h à 19h30. 6 jours par semaine. Vous vous occuperez du coin roman. Cela vous va-t-il? Très bien, monsieur. Alors, à demain, 9h. Profitez de votre journée de liberté pour aller voir mon beau-frère. Mes amitiés à votre père.
Dans l'après-midi, Charles-André est allé présenter son livre à l'éditeur, qui a été prévenu de sa visite, de la visite du jeune homme par le libraire. Sans savoir ce que c'était, il lui dit « Je vous fais confiance, l'on m'a dit le plus grand bien, et puis il faut aider la jeunesse. Et si vous avez été connu à Paris, je mettrai sur la couverture un Lyonnais célèbre à Paris, enfin édité à Lyon, a écrit un roman qui se passe dans notre bonne ville qu'il aime tant. Et au fait, le titre du roman. Oui, j'avais oublié. Cauchemar. Le lendemain matin, il a commencé sa journée. Le directeur a prévenu tout personnel qui était Charles-André et leur a dit « Attention, il est ici incognito ». Alors, tous regardent avec respect Charles-André, lui parlent avec des courbettes. Lorsqu'il a à faire quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour l'aider. Pour sa première journée, il doit déballer des livres arriver et les mettre dans des rayons par lettres alphabétiques. Chaque fois qu'il a ouvert un carton, il y a deux personnes qui accourent pour l'aider. Lorsqu'il se passe, les gens parlent bas et se tournent pour le saluer. Cette ambiance étrange le fait rire et se dit qu'il est comme le prince étudiant dans une université qui ne peut vivre la vie d'un jeune homme de son âge parce qu'il est prince. Mais lui, ça n'ennuie pas de ne pouvoir vivre sa vie d'employé. Il a prévenu son père qu'il travaillait. Son père lui a dit, « C'est très bien, mais il faudra t'y tenir. » Sa sœur lui dit, « Moi, j'ai rien trouvé. Et s'il veut absolument que je travaille, il n'a qu'à m'en trouver. » Pendant que Charles-André travaille, Apolline reste près de Jules qui la plupart du temps étudie à la maison, dans sa chambre. Elle s'assoit sur le rebord de son lit et lui, il est à son bureau à étudier. Elle est toujours aussi éblouie par lui. Elle le trouve aussi séduisant, aussi beau. Et lui demande, tu te souviens, lorsque nous étions très amis, il se retourne pour la regarder et lui dit, mais nous sommes toujours très amis. Il lui répond, pas vraiment comme avant, viens.
Il se lève pour aller s'asseoir près d'elle.
L'entoure de ses bras. Il met sa tête sur sa poitrine en lui disant « Je devrais dû rester avec toi. » Il sent contre lui son corps si doux, aux formes agréables. Cela le trouble beaucoup, surtout que depuis les derniers rapports avec elle, il n'a eu aucune relation. Malgré sa beauté, c'est sa timidité. Et puis, à part sa sœur, aucune femme ne lui plaît.
Les jours passent.
Un jour, Constant, pendant le repas, énervé parce qu'il voit sa fille toujours sourire et dire des bêtises à Jules, se met à dire « Apolline, cela suffit. As-tu trouvé une occupation ?» Elle lui dit « Non. Eh bien, il faudra en trouver une, le plus vite possible. Sinon, la bonne arrive pour apporter la viande. » Apolline regarde son père et lui dit « J'ai trouvé quelque chose à faire. Et qu'est-ce ? Tu verras, père. » La mère a organisé une soirée intime de 50 personnes seulement. Comme elle dit, que des amis, très amis, mais nous serons entre nous.
La froideur de l'homme anglais n'est qu'un mythe, une invention.
Peut-être, mais je ne suis pas d'accord. Et qui l'aurait inventé ?
Les Italiens, sans doute.
Et pourquoi aurait-il inventé une chose de ce genre ?
À 21h, tout est prêt pour la soirée.
Mais vous, qu'en pensez-vous ?
Les portes du salon sont grandes ouvertes, les lumières sont éclairées, les chaises en place, une estrade avec un piano, car une cantatrice vient chanter. Ça fait bien d'avoir un artiste comme ça pour distraire les gens. Ce n'est pas bien d'inviter des saltimbanques à une soirée, mais l'on peut le faire venir pour exécuter leur art. C'est comme les médecins, ils doivent être relégués au rang de domestiques. La mère est prévenue, ses deux fils et sa fille pour être présents. Les gens commencent à arriver. Après avoir dit bonjour, ils se ruent vers le buffet. Lorsque la mère fait une soirée, toute la haute bourgeoisie lyonnaise est là. Elle va dire bonjour aux Roussillons, les célèbres soyeux. Il y a beaucoup d'autres. Une grande dame mince dans les 50 ans, habillée d'une robe noire, lui demande « Il paraît que vos enfants sont de retour. »
«
Oui, et j'en suis très heureuse. » Et votre fils Charles-André travaille à une librairie, Bellecour.
Mardi prochain, je ne serai pas.
Oui, oui, c'est une idée de mon mari. Il...
Ou comme femme.
Il veut qu'il apprenne le commerce.
Notre chère princesse.
Mais je croyais qu'il était écrivain.
Parmi les invités.
Oui, aussi, mais vous savez, l'écriture nourrit pas son homme.
C'est la pénitence qu'elle nous a
et votre fille. Tout à coup, elle voit sa fille, habillée en bonne, passer l'air rafraîchissant. « Excusez-moi !» Elle accourt vers Apolline. « Que fais-tu dans cette tenue ?»« Eh bien, je travaille. Arrête de faire l'idiote. Enlève cet accoutrement. »« Mon mère, il faut bien que je fasse quelque chose. J'ai trouvé ça. » Et elle s'éloigne. La mère va retrouver son mari. « Ta fille joue à la bonne. Fais-la arrêter. » Constant va voir Apolline. Tu vas t'habiller correctement et arrêter tes centricités. Je travaille. Le père prend sa fille par le bras et aux yeux de tous qui se demandent ce qu'il... il la conduit au service. Il prend le plateau de verre qu'il met sur la table et lui donne une gifle. Il faut que tu arrêtes tes caprices de jeune fille. C'est pas un caprice de jeune fille. Vous m'avez demandé de trouver du travail, eh bien j'ai eu l'idée. C'est...
Je tenais à vous remercier. Je suis désolée de ne pas...
C'est ce que vous pouvez...
C'est déjà, c'est dommage.
Vous pouvez bien me prendre pour bonne, à la place d'une des vôtres, autant que vous fassiez travailler votre famille. Petite idiote! Je t'ai pas dit de chercher un emploi, mais une occupation. Une jeune fille comme il faut n'a pas à travailler. Elle trouve un mari. Elle doit s'occuper de sa famille. C'est bon pour les femmes de pauvres de travailler. Alors arrête de faire l'idiote. Tiens-toi. Trouve-toi une occupation. Va au patronage de la paroisse. Occupe-toi des pauvres. Rentre dans une chorale. Je sais pas moi. Mais ne reste pas à la maison sans rien faire. De toute façon, tu as un âge de te marier. Faudra que tu penses à préparer ton trousseau avec ta mère. Je crois avoir un jeune homme pas mal pour toi. 35 ans, bonne situation, famille lyonnaise. Elle soupire et lui dit, mon Dieu, je vois déjà la chose. Mon mari, bon, merci. J'aimerais mieux mourir vieille fille. Mais que vois-tu donc? Tu ne le connais même pas. Sa famille et lui doivent tenir un magasin d'objets de piété à Fourvière. Mais non, tu n'y es pas du tout. Qu'est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête? Rien. Il embrasse le front et lui dit, quelle idiote tu es. Mais une jolie idiote. Nous parlerons de tout ça plus tard. Et que décides-tu de faire? Jouer la comédie? Certainement pas. Et puis tu joues très mal. La preuve, on t'a tout de suite remarqué en soubrette. Choisis la chorale, comme ça tu monteras sur la scène. Bien, bon, d'accord pour la chorale et le trousseau. Mais le marié, je veux voir. Le père l'embrasse et la quitte. Apolline décide d'aller dans sa chambre. Jean-André voit que Jules est très entouré, car il a une certaine notoriété par ses livres de nouvelles pleines de finesse très féminines. Une jeune fille, blonde, très douce dans les 20 ans, habillée d'une robe toute simple blanche, lui dit « Pourquoi Jules? Est-ce que nous sortons jamais le soir? Parce que Nelly, j'ai beaucoup à faire.
Dommage que vous arriviez.
J'ai même pas une heure de temps en temps à me consacrer.
Mais j'en suis tout à fait.
C'est très difficile, vous savez. Et soupire lui dit.
J'en suis navrée. Viens t'asseoir, Fanny-moi.
Est-ce que vous m'aimez pas? Je vous ai déjà dit, Nelly, que je vous aime bien, mais c'est difficile de parler de tout ça entouré de ce monde. Vous ne trouvez pas? Elle lui dit. Allons dans le parc alors. Ça ne servirait pas à grand chose. Je vous en conjure, venez. J'ai envie d'être seule avec vous. Elle lui prend la main. Il la serre. Il sort de la maison. Une fois dans le parc, elle le guide dans un endroit au pied d'un arbre où se trouve un banc. Ils s'assoivent. On entend le bruit de la musique. Elle a gardé la main dans sa sienne et met sa tête sur sa poitrine. Cela ennuie Jules, mais que faire?
Bien, je tenais à vous remercier. Je suis désolée de
je
ne pouvoir
rester. Je vous aime, Jules. Il lui dit.
Vous quittez déjà,
je vous remercie, Nelly. Mais il ne faut pas.
Vraiment extraordinaire.
Je ne peux vous répondre à votre
oui,
amour.
C'est vrai, c'est tout à fait mon avis.
Pourquoi? Vous ne trouvez pas assez belle?
Au revoir.
Il a pitié d'elle et lui dit, ça vient de moi, je suis incapable de rendre heureux une personne. Je suis dans mes rêves. Quelquefois, je ne sais plus ce que je suis capable d'aimer. Les sentiments se troublent. J'ai honte de ce que je ressens. Et lui dit,
où vas-tu?
Vous n'avez pas à avoir honte d'aimer.
Tu es avec elle.
Il lui dit, ça dépend de ce que l'on ressent. Et puis je suis incapable d'être heureux avec une personne.
Amusez-vous bien.
Mais moi je vous rendrai heureux. Il lui dit. C'est moi qui suis incapable de rendre heureux. Elle lui demande. Pourquoi? Parce que mon âme est trouble.
Et
elle lui dit. Vous posez de questions. Aimez-moi et c'est tout. Nos parents ne diraient pas non. n'y a que vous.
Notre plus ravissante invitée, j'espère.
Oh, mais cela
ne voyez passer pas un après. Couple, un jeune homme et une jeune femme. Il lui dit, non, mais n'insistez pas, n'insistez pas. Se dégage et se lève.
Voulez-vous dire au comte Gano que
je l'attends? Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on arrête ce genre de discussion. Autant pour vous que pour moi. Venez, rentrons. Elle se lève, triste et ne comprend pas. Il l'amène jusqu'au salon et lui dit, je vais me retirer. Cette soirée a assez duré pour moi. Bonsoir, mademoiselle. Elle a les larmes aux yeux et lui dit, bonsoir, monsieur. Et il s'éloigne. Les jours passent. Apolline, pour être tranquille, chante dans une chorale, mais elle s'ennuie ferme. Un soir qu'elle est allongée sur le lit de Jules et que Jules est à son bureau, elle lui dit « À la première occasion, je m'enfuis et je t'emmène avec moi. » Il lui dit « Tu sais très bien que je ne partirai pas et que tu prendras mon frère pour te servir de chaperon. » Elle hausse les épaules et lui dit « J'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de chaperon, mais je m'ennuie, je veux vivre. Si au moins... tu pouvais m'aimer comme avant. » Il lui dit, avant c'était avant, maintenant j'ai changé. Quelque chose est trouble en moi. Elle lui dit, c'est parce que tu travailles trop, tu écris constamment. Il lui dit, je suis bien obligé, j'ai mes cours à faire et puis je dois écrire des nouvelles, les lecteurs attendent. Malheureusement, je trouve de moins en moins d'idées. J'ai de plus en plus de difficultés à écrire. Elle lui dit, pouf! Tu sais, les lecteurs ne demandent pas tant que ça. Regarde certains romans, ce ne sont que des babillages de mondains. Il lui dit, peut-être, mais j'ai besoin d'écrire avec un vrai sujet. Elle lui demande, tu me feras lire ce que tu as écrit? Il hausse les épaules, lui dit, si tu veux, mais je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Apolline voit peu son autre frère. Une certaine réserve s'est mise entre les deux lorsqu'ils ont franchi l'entrée de la maison. Elle est prise, hypnotisée par la beauté de Jules. Le temps passe. Le roman de Charles André a été publié et en vitrine dans les librairies du centre. Comme son auteur a un nom connu, le livre se vend bien et il se lit. Et là, les gens sont surpris, outrés, la colère leur monte au nez, leur livre leur échappe des mains. Mais très vite on le reprend, car l'on aime, malgré tout, les sensations fortes. On se sent gêné d'être vu en train de lire. Et comme un livre, c'est comme un livre pornographique. Ces dames vont le lire le feu au jour en cachette dans leur boudoir. Et si une amie leur demande ce qu'elles en pensent, si elles l'ont lu et si elles doivent lire, elles disent toutes qu'elles ne l'ont pas lu. aurait très honte de dire qu'elles l'avaient lu. Si elles ont acheté le livre pour leur fille, car elles pensaient que c'était écrit par une personne du monde et que l'histoire se passait à Fourvière, elles pourraient le mettre entre toutes les mains. Et là, dès qu'elles ont vu ce que c'était, elles ont tout été reprendre le livre sans oser demander à la jeune fille si elles avaient commencé à lire. Pour les hommes, ce n'est pas la même chose. Eux osent en parler et crient fort au scandale. C'est l'œuvre d'un franc-maçon, d'un communard. Quelle honte! Montrer notre chère ville à ses habitants comme ça. Le monde catholique est bafoué, la morale aussi. Tuer de sang-froid ses parents et se faire putain. Quelle honte! C'est l'œuvre la plus immorale qui soit. Ces cris de colère deviennent de plus en plus fréquents dans les salons. Ces messieurs en parlent. On ne salue plus la famille et on ne les invite plus. Le clergé entend ces bruits. Le primat des Gaules veut lire ce livre qui est si irreligieux, immoral et bafoue la famille. Un grand homme sec à cheveux blancs. Il se fait acheter le livre, un de ses secrétaires et le lit. Comme il est assez friand de choses fortes, il le lit avec plaisir. Se dit même par certains passages bien écrits. Mais une fois que sa lecture a été finie, il est redevenu primat des Gaules et se sent outré par cette chose immorale. La municipalité aussi l'a lu, et la préfecture, mais ils ont bien ri aux dépens des curés. Le primat, qui connaît bien M. Constant Bonlandin, décide de le faire venir à son bureau. Il lui a envoyé une lettre d'invitation disant que c'était pour une affaire très importante. Constant soupire, va au rendez-vous. Il doit être pour une collecte quelconque. Un secrétaire en soutane le mène au bureau du primat des Gaules. Ça sent la rose et l'encens. Le secrétaire va frapper à la porte.
Entrez. Il ouvre la porte et dit « Monsieur Constantin Bernardin. Entrez, monsieur Bernardin, je vous en prie. » Il entre. Le secrétaire ferme la porte.
Le bureau est une vaste pièce avec des meubles en bois massif, un grand bureau, deux fauteuils, des chaises tapissées, une bibliothèque. Sur le mur, qui a été passé à la chaux, un grand crucifix en bois juste au-dessus du bureau. Le primat a sur sa table de son bureau le livre de Charles-André. Il dit « Venez vous asseoir, monsieur Constantin. »
Constantin va s'asseoir sur un fauteuil en face du primat.
Le primat demande « Comment allez-vous, vous et votre famille ? » ?»«
Très bien, je vous remercie, monseigneur. »
Je vous ai fait venir, mon ami, c'est pour une affaire fort délicate. Vous savez sans nul doute que tout Lyon est en émoi au sujet d'une affaire fort désagréable.
Non, je ne le sais pas, je travaille beaucoup ces derniers temps et je n'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui trouble notre belle cité. »
Le primat soupire et lui dit,
« Je vais malheureusement vous le dire. C'est à cause d'un membre de votre famille, votre fils Charles-André, a écrit et fait éditer un roman, enfin, si on peut appeler cela comme ça, qui trouble beaucoup les esprits et émeut plus d'un. Ce qu'il a écrit est d'une immoralité et souille la religion, la famille et notre belle ville. Il faut absolument que ce scandale s'arrête. »
Le père surpris lui dit,
« Je ne comprends pas et je vous prie de croire que je ne savais pas. Mon Dieu, comment mon fils a-t-il pu faire une chose pareille ?»
Le primat lui demande, « Vous n'avez vraiment pas lu son livre ?»«
Non, je vous le jure. »
« Faudra le lire, mais ne le faites lire à personne et brûlez-le. » »«
Je vous le promets, mon éminence. » »«
Je vous ai fait venir, c'est pour qu'il arrête ce scandale. » »«
Tout d'abord, je vais faire dire dans les églises, au moment du serment, qu'il est interdit de lire ce livre. »
Et vous allez dire à votre fils d'en arrêter la publication.
Car malheureusement, ce livre impie se lit beaucoup. Et l'on en est, je crois, à 3e réédition.
L'éditeur se frotte les mains.
Je lui promis que s'il arrêtait de faire imprimer ce roman, il aurait l'exclusivité des biographies de Bernadette Stobirou.
Il m'a rionné en me disant que ça le mènerait à la ruine.
Alors je suis obligé de prendre des mesures très sévères. Si votre fils et l'éditeur n'arrêtent plus pas l'édition du dit livre, je porterai l'affaire au Saint-Siège. Et vous savez que dans ces circonstances, le livre est mis à l'index et l'auteur excommunié avec l'éditeur.
Mon Dieu, mon éminence, pensez à notre famille. Nous allons être bannis.
C'est justement ce que je fais. Allez, maintenant, faites votre devoir de chrétien.
Le père se lève, s'incline et dit,
je suis au service de son éminence et de l'Église qui le représente.
Allez, mon fils.
Il entre chez lui furieux avec un exemplaire du livre de son fils qu'il a acheté dans une librairie. S'enferme dans son bureau pour le lire en attendant le retour du fils.
Lit le livre. Sa colère disparaît au fur et à mesure qu'il le lit.
Trouve l'histoire bien faite, même puissante. La description du milieu très réelle. Risuka en se disant que les bigots ont dû se reconnaître et que ça ne leur a pas plu qu'on leur montre dans quelle médiocrité ils vivent.
Pour ce qui est du crime des parents,
pour la vie qu'ils menaient, ça n'en aurait pas été une si grande perte de la perdre, et pour la société non plus.
Et lorsque la fille fait le tapin après sa désillusion,
c'est alors des choses. Elle est gentille, cette petite.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.